Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les rêves du sociologue Bernard Lahire. Paradoxalement, les sciences sociales ont leur mot à dire sur cette plongée dans l'intime de notre psyché, tout comme les rêves ont des choses à nous dire sur la société dans laquelle on vit. Professeur à l'ENS de Lyon, Bernard Lahire publie l'interprétation sociologique des rêves à la découverte. Il sera notre invité après le journal d'Antoine Mercier dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, les belles ondes de Thierry Esquèche, compositeur et organiste, tête d'affiche du 28e festival présent de Radio France qui s'ouvrira ce soir à l'Auditorium, accompagné pour l'occasion de l'écrivain Laurent Godet. Compositeur de l'année aux Victoires de la Musique l'an passé, il écrit et joue, improvise ou interprète. Il est aujourd'hui avec nous autour de cette grande table à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le chant des ténèbres, kyrie d'une messe imaginaire, un concerto pour orgue et orchestre, des scènes de bal pour quatuor à cordes ou le dernier évangile. Thierry Esquèche fait aussi dans la musique pour ballet avec Benjamin Millepied, pour qui il a retrouvé The Lost Dancer. Et puis pour l'opéra, avec Claude sur un livret de Robert Badinter, d'après Claude Gueux de Victor Hugo, à la demande de l'Opéra de Lyon. Bonjour Thierry Esquèche.
Bonjour.
L'opéra, vous y êtes venu sur le tard. En jachère, un nouveau projet avec l'écrivain Atik Raimi pour la prochaine saison de l'opéra de Lyon. Ça y est, vous avez chopé le virus?
Oui, j'ai chopé le virus parce que je me sentais pas fait pour ça en tout cas. À l'extérieur, on disait que ma musique devait porter vers l'opéra, mais moi je me sentais un peu étranger à ça. Et puis le rapport avec les écrivains qui vous donne vraiment un monde, qui vous propose un monde à chaque fois complètement différent, c'est une manière de se renouveler.
Qu'est-ce qui vous retenait dans l'opéra? C'était le mélange des voix avec l'instrument, la musique?
Non, parce que ma musique est souvent très vocale. J'avais écrit des oratorios, j'avais écrit des mélodies. Mais je crois que c'est même culturellement, j'allais assez peu à l'opéra. J'étais plus attiré par le cinéma, moi, personnellement, que curieusement que par l'opéra. Après, une fois que je sortais de la musique, j'essayais de donner un côté très dramaturgique à ma musique symphonique. Vous parlez de Kyrie d'une messe imaginaire pour ma première symphonie. C'est une sorte d'opéra sans voix, d'une certaine manière. Mais après, je passais directement au cinéma. Et puis là, effectivement, j'ai chopé ce virus. Et en plus, de travailler avec une mise en scène, avec un metteur en scène, avec des écrivains, moi, c'est passionnant.
Je citais quelques-unes de vos pièces, compositions, Thierry Esquèche. Vous êtes d'un tempérament aussi foisonnant que votre répertoire?
Oui, j'écris beaucoup. J'écris, je joue. J'ai un côté un peu boulimique. Je fais partie de ces compositeurs un peu comme il y avait des compositeurs baroques. Je sais pas. J'imagine des gens comme Handel, Mendelssohn. Mendelssohn faisait plein de choses. Il était pianiste, violoniste. Il composait, dirigeait des chœurs, tout ça. Et je me sens un peu dans cette tradition du compositeur qui a besoin d'être dans la cité lui-même, de faire passer le message.
Alors vous écrivez la nuit ou le jour?
Non, j'écris quand je peux. J'écris tout le temps parce qu'un compositeur ou un écrivain, on sait très bien qu'il écrit tout le temps. Il écrit mentalement, en me promenant, venant ici, je compose dans le taxi, dans l'avion. Après, je me pose un peu, mais je peux me poser n'importe où. Et j'aime bien dire me poser dans un hôtel à Cincinnati, à Chicago ou autre. Et puis avoir volé une demi-heure, trois quarts d'heure en autant pour mettre sur le papier les choses qui ont été pensées durant toute une journée.
Donc vous écrivez sur le papier, pas forcément devant votre orgue, quand ce sont des pièces pour orgue notamment, mais vous avez, parce que c'est facile d'avoir à la maison une flûte ou un violon, vous avez un orgue chez vous?
J'ai un petit instrument, mais qui est pas très très intéressant, qui est juste vraiment quelque chose qui rappelle un orgue. Mais j'écris assez peu en fait à l'orgue, même quand c'est que pour orgue. Mon instrument, on va dire, de travail quand je suis chez moi, ce qui m'arrive quelquefois, pas beaucoup, mais ce qui m'arrive, c'est le piano plutôt. Comme beaucoup de compositeurs, ça a été, ils passent leur temps au piano. Et vous savez, quand vous êtes devant un piano et que vous composez, c'est pas un piano, c'est une sorte de réduction de ce qu'on veut. Ravel, il a écrit la plupart de ses œuvres. Stravinsky, ils étaient devant le piano, mais ils entendaient l'orchestre. Voilà.
Alors ce soir s'ouvrira le 28e ou la 28e édition du Festival Présence de Radio France, dont vous êtes l'invité d'honneur, la tête d'affiche, comme on dit, Thierry Esquech, avec un concert d'ouverture, trois œuvres au programme, l'une de Maurizio Kagel et deux de vous, dont Cri, inspiré du roman éponyme de Laurent Godet, sorti en 2001, qui sera présent lui aussi, mais en tant que récitant, premier roman qui faisait entendre monologues intérieurs et cris des soldats de la Grande Guerre, mise en fiction par France Culture, c'était en 2002, extrait.
Écoute, Marius, et ne crois pas que je délire. Écoute, j'en suis certain maintenant. Je l'ai entendu. Les mêmes cris. Tantôt aigus, tantôt rocailleux. Le même appel animal. Là-bas. En plein milieu de cette terre vierge et dangereuse. Ce territoire ténu, entre nos tranchées et les leurs, il est là à nouveau. Je l'ai entendu reprendre son chant bestial. Il erre à nouveau, longeant dans la nuit nos lignes, ou les leurs. Frôlant les barbelés, rampant dans la boue, il a survécu à la grande attaque. Je sais que c'est incroyable. Je sais que toute la journée, il a plu des obus. Mais il a survécu. Et ce soir, il a repris. Il est à nouveau seul, au milieu du champ de bataille déserté. Il rampe. Il marche et hurle. Je ne saurais dire s'il hurle pour pleurer ses morts, ses milliers de morts qui jonchent son royaume, ou si c'est pour fêter son triomphe d'animal bouché et pour nous remercier de tout ce sang versé.
De Laurent Godet sur la ligne de front, grandes attaques et petits replis, les absurdités de la guerre, Thierry Esquech, des cris stridents, des silences de mort, une musique de peur. Comment mettre tout ça en musique?
Vous venez de le dire par les mots que vous avez employés, en fait, on vient de l'entendre. Déjà, la langue de Laurent a un rythme très musical. Hein, les ruptures, les changements de... Et puis, ce qu'elle évoque aussi, ce qu'elle évoque dans le choix des mots, il est vraiment... c'est sidérant. J'ai retrouvé, d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec Robert Banater sur Victor Hugo, j'ai retrouvé un peu cette force aussi quand je travaillais sur Victor Hugo. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce livret avec Robert Banater. Et là, quand je lis Laurent, effectivement, que ce soit les métaphores, que ce soit la force, simplement, des ruptures, des silences à l'intérieur de sa phrase, il a une sorte de dramaturgie aussi hyper naturelle dans laquelle je me retrouvais, moi, comme compositeur. Et donc, ça m'a posé vraiment aucun problème. C'est une pièce qui fait une demi-heure, mais que j'ai écrite assez vite, je crois. Hein. J'ai mis quelques semaines pour l'écrire.
Donc très sombre.
Sombre, oui, mais...
Pas de contre-pied musical.
Oui, évidemment, c'est sombre. On vient de l'entendre là, ça peut pas être... Je peux pas faire une Java. Ceci dit, je plaisante, mais il y a une Java à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi des souvenirs qui sont évoqués. Il y a ce mélange dans la pièce, Laurent l'évoque aussi. Il y a des souvenirs quand ils ne sont pas au front. Et ce mélange entre, justement, les souvenirs de ce qu'ils aimeraient être, de l'espérance, et puis la noirceur des camps de Verdun. Et justement, c'est ce mélange qui m'a intéressé. Et donc, il y a effectivement des univers très différents dans la pièce, même si ça reste, la tonalité reste assez sombre.
Entre nous, il est sympa, Laurent Godet.
Mais il est absolument adorable. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est, qui se lance dans cette aventure avec moi, que j'ai un peu, je lui ai mis le pied à l'étrier.
Avec nous par téléphone, Laurent Godet, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça y est, vous êtes parti pour l'aventure avec Thierry Esquech, le pied à l'étrier. Comment vous avez travaillé ensemble sur cette pièce musicale, Cri, dont vous serez ce soir le récitant?
Moi d'abord je l'ai pris vraiment comme l'œuvre de Thierry, c'est-à-dire heureusement pour moi c'est un texte qui a son âge maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années, donc c'était bien d'ailleurs, j'étais pas du tout en référence au roman Cri, j'ai vraiment plongé dedans comme si Thierry avait construit tout ça, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, c'est un travail aussi de montage vis-à-vis du texte qui est le sien et qui d'ailleurs du coup donne un objet je trouve moins sombre que le roman, puisque vous parliez de ça. Oui, j'ai le sentiment que et sa musique et le choix qu'il a fait dans le roman donne un côté, c'est tendu, il y a beaucoup de bourrasque, mais c'est moins sombre.
Alors, vos mots seront accompagnés de quel instrument? On ne sait pas d'ailleurs, Thierry Escache, il y aura l'orgue. Vous serez à l'orgue à ce moment-là?
Alors, cette pièce-là, je vais ce soir ouvrir effectivement avec l'orgue, mais après, l'orgue se taira et il va être remplacé par l'accordéon notamment, et puis un groupe de violoncelle, et puis le chœur de Radio France, et des percussions aussi de l'intercontemporain, et la direction Julien Leroy. Et donc, c'est un ensemble d'ailleurs, vous avez assez hétéroclite, hein, c'est pas un orchestre classique, j'ai voulu créer des sonorités spéciales pour ce texte et cette expression que moi je trouve vraiment très belle et très spéciale justement, elle lui est très personnelle.
Laurent Godet, du coup, vous n'avez pas directement fait le choix des instruments et de la musique, vous avez fait, j'imagine, là-dessus confiance à Thierry Escache.
J'en serais bien incapable, oui.
Ça vous plaît l'un et l'autre de passer de registres assez différents comme celui-ci? Vous avez réalisé, vous, Thierry Escache, et vous continuez à faire des sortes de concerts ciné, des ciné-concerts, ouais, comme on dit, donc le travail de la musique sur l'image, ouais, souvent en direct. De votre côté, là, Laurent Godet, vous voyez vos mots être mis en musique. On peut passer d'une discipline, d'un champ artistique à l'autre assez facilement comme cela. Laurent Godet?
Moi, je trouve que c'est très important. C'est une d'ailleurs des très belles choses qu'on a dans nos métiers. Ces passerelles, ces rencontres. Je suis très heureux et très touché que mes mots aient pu inspirer l'envie de travailler, l'envie d'écrire de la musique à Thierry. Et en retour, c'est vrai que c'est très important de venir se frotter un petit peu aux écritures musicales d'aujourd'hui. Moi, je me sens assez démuni parce que je suis pas un spécialiste, mais très désireux de voir comment ça s'écrit, comment ils travaillent eux. Donc oui, ça c'est important. Et puis c'est un apprentissage aussi d'une difficulté. Moi, je fais souvent des lectures au théâtre, mais là, la musique impose un rythme, un tempo qui fait que voilà, ça rajoute un petit peu de difficulté. Et c'est assez excitant. Oui.
Alors ce soir, pas de planche, Laurent Godet, mais la très belle scène de l'auditorium de Radio France où l'on pourra vous retrouver en compagnie de Thierry Escache à partir de 20h. Merci beaucoup à vous. Très belle soirée ce soir. Thierry Escache, pour terminer ou clore ce festival, il y aura beaucoup d'autres concerts entre deux. Il y a une œuvre commandée par Radio France pour le 11 février, donc le mystère de la création, le souffle de la ville. Là encore, on n'en sait pas beaucoup plus. Ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour l'occasion?
Mais j'ai pris des poèmes amérindiens et de la tribu des Navajos et que j'ai trouvé vraiment très beaux, qui sont effectivement pour moi des réflexions philosophiques sur la vie, sur le rapport entre l'homme, la nature, sur le rapport entre l'homme et l'animal, et un rapport tout simplement entre... comment se sentir vivre. Ils savent en parler mieux que personne, mieux que des tas de philosophes. Je trouve que ce sont vraiment des philosophies à part entière. Et donc, mais ce sont des chants, tout simplement, des poèmes, des chants. Et j'en ai lu plein et j'en ai tiré 5. Et de ces 5, je les ai mis en musique, c'est-à-dire je les ai accompagnés. Et je suis vraiment content que ce soit des enfants, d'ailleurs, qui les chantent. La maîtrise de Radio France, qui est en train de préparer Sophie Janin en ce moment. Et accompagné par contre par l'orchestre philharmonique de Radio France, mais avec évidemment des transitions. Donc là, il y a des chansons, mais à l'intérieur de ces chansons, on passe d'une chanson à l'autre avec des transitions orchestrales qui essaient de faire vivre les mots, comme ce soir, la pièce de Laurent Godet. Bah, j'ai essayé que les mots de Laurent se perpétuent, se continuent dans la musique et vice versa.
Et de tenter de boucler ensemble le cycle de la vie, Thierry Escache. Ça, c'est vraiment votre patte. La patte, Thierry Escache, c'est cet éclectisme des chants grégoriens à la poésie des Navajos, musique traditionnelle amérindienne que vous évoquiez à travers ces chants, qu'on retrouvera donc pour cette soirée du 11, en passant par Brahms, par Bardock, par Messiaen, du sacré au populaire, Thierry Escache. Quel est le fil conducteur pour vous? C'est à chaque fois une expérience différente du sensible?
Je pense qu'un compositeur, de même qu'on pourrait poser la même question à Laurent, quand on écrit, on se nourrit de tout ce qu'on a connu, de toutes nos expériences. Et souvent, écrire, composer, ou même écrire pour un écrivain, c'est faire fusionner des expériences complètement hétérogènes. C'est effectivement une valse, musette, c'est effectivement un chant grégorien, c'est un chant indien philosophie. Et tout ça, Messiaen disait très bien d'ailleurs ça, il disait qu'on fusionnait des matériaux complètement différents. Et le talent du compositeur, je pense que c'était d'essayer de faire ça pour créer une unité justement et rendre effectivement intelligible, ce sensible.
Entrons dans votre musique, Thierry Escache, avec un extrait du Kyrie d'une messe imaginaire.
Thank you.
C'est le début, en fait, de toute cette symphonie. Et là, ce qu'on entend, vous voyez, c'est une. Il y a une superposition de choses différentes. Il y a dans l'aigu, il y a des flûtes, dans le grave, il y a des graves, il y a différents plans sonores. Et mais tout ça, c'est du grégorien en fait. Mais c'est du faux grégorien. C'est tout à fait moi. Ça, c'est vraiment, c'est du. Ça fait penser à du grégorien, mais cette âme n'existe pas. Et on est plongé dans une sorte d'univers mystique, mais à la fois sensuel. On attend quelque chose qui va exploser juste après. Et j'avais mis en exergue de cette symphonie. Je me souviens des la fin de Théorème de Pasolini. Et au moment où le héros se dépouille de ses vêtements et court dans le désert, et puis on ne sait pas si son visage est pareil, là, c'est un blasphème, une prière, s'il est presque défiguré par la rage, et j'avais trouvé ce film très poétique. Et d'une certaine manière, ça avait inspiré un peu cette œuvre à la fois mystique, sensuelle, cette sorte de mélange.
Mystique et sensuelle, c'est pas paradoxal ?
Non, alors dans ce cas, il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient pas le droit, ne serait-ce que Pasolini, qui n'auraient pas le droit à la plume.
Est-ce que vous êtes, vous, une brebis égarée, Thierry Esquèche ?
Alors, brebis égarée, je ne sais pas. Non, je suis quelqu'un, j'ai une spiritualité très forte, et c'est dans mon univers intime, mais je suis égaré, c'est-à-dire que je me sens pas... Professionnellement, je suis quelqu'un qui n'ai jamais voulu socialement être un professionnel de la composition, un professionnel, je ne sais pas. Je me laisse porter par les événements depuis que j'ai quelques années. Je suis devenu compositeur, un peu par la force des choses. Je suis organiste en même temps, ça aurait pu être un autre instrument. Je me laisse, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être effectivement sur scène, comme dans ce présence, de faire passer des émotions, de faire passer un monde sonore, que ce monde se transforme avec les diverses influences du monde contemporain, parce que j'en fais partie. Et en cela, oui, je suis un peu une brebis égarée, mais qui me porte quand même... J'ai un idéal auquel je veux arriver, une sorte d'œuvre parfaite à laquelle j'arriverai certainement jamais, mais c'est elle qui me porte.
Donc une quête d'idéal plus qu'une quête de transcendance, vous diriez, quand vous composez Litanie de l'ombre, Kyrie d'une messe imaginaire, ou encore le dernier évangile, ou Vertige de la croix, tout ça c'est quand même porté par l'idée que la musique, et notamment sacrée, peut nous transporter ailleurs, vers une sorte d'au-delà, qu'il faut accepter de se laisser porter et transporter.
Oui, en tout cas, je trouve que ça fait un peu partie du rôle de quel que soit la transcendance, je veux dire, qui est au bout du chemin. En tout cas, pousser, ce qu'on appelle le beau, hein, ce qu'appellent les philosophes le beau, Kant ou d'autres, c'est ça en fait, c'est cette forme, cet idéal, c'est presque cette névrose d'idéal, on pourrait dire en psychanalyse, qui vous porte, qui vous fait monter, et il faut faire découvrir aux gens, par la force de ce que vous faites, une sorte d'idée de la transcendance. Je pense que c'est un peu le but qu'on se fixe, et on essaie de trouver les moyens les plus, ça c'est le côté le métier, les plus efficaces, pour y faire participer le public. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire.
Le langage entre une œuvre liturgique et profane est-il le même ? C'est peut-être la méthode Messiaen, celle qui vous inspire. Olivier Messiaen, compositeur, organiste, pianiste, qui a un studio d'ailleurs à son nom à la Maison de la Radio, et qui répondait à cette question.
Lorsque vous écrivez une œuvre liturgique et lorsque vous écrivez une œuvre profane, vous utilisez les mêmes moyens de langage.
À peu près. Ça a d'ailleurs été une occasion de scandale pour certains. Et je ne vois d'ailleurs guère moyen de faire autrement. Parce qu'on est tout on a tout un langage. On ne peut pas, au cours d'une vie, adopter différentes esthétiques sous prétexte qu'on change de sujet et de choses à exprimer. D'autre part, j'ai en effet transporté les vérités de la foi au concert. C'est exact. Mais lorsque je l'ai fait, je l'ai fait d'une façon liturgique. Elle enseigne que la principale de mes œuvres religieuses de concert s'appelle justement « Trois petites liturgies ». Ce n'est pas en vain que j'ai utilisé ce titre, parce que je croyais en effet à ce moment-là faire acte liturgique, c'est-à-dire transporter en somme une sorte d'office, une sorte de louange organisée au concert. Et ça a été, je crois, encore une fois, une raison de scandale pour certains, mais ma principale originalité, c'est d'avoir retiré l'idée de la liturgie catholique des édifices de pierre destinés au culte et de l'avoir transporté dans d'autres édifices qui ne semblaient pas a priori faits pour recevoir ce genre de musique et ce genre de louange et qui finalement l'ont très bien reçu.
Mais prenons le cas justement des petites liturgies. Préférez-vous que ces petites liturgies soient jouées dans une salle de concert ou dans une église ?
Elles sont à sa place dans l'une et dans l'autre.
Oui, ben c'était. Oui, je reconnais bien là Olivier Messiaen. Qu'est-ce que quand on m'entend quelquefois improviser, des amis m'entendent improviser ou des paroissiens à Stéphane Dumont, c'est vrai que ça a dû leur faire un choc au début parce que quelquefois ça peut ressembler aussi bien à un rock ou un disco, qu'à une pièce. C'est-à-dire, moi, je change pas de style quand je vais dans une salle de concert, quand je vais dans une église. Quelquefois, je reste Thierry Escage. Donc c'est ma façon. C'est vrai que j'ai essayé de donner une certaine énergie à le côté sacré. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a une différence entre ce que je fais en musique profane et non? Parce que est-ce qu'une musique est complètement profane non plus? Ce qu'il faut, c'est surtout de la substance. Après, une fois qu'il y a cette substance, d'une certaine manière, la direction de cette substance, c'est souvent au public de décider. Et puis, vous savez, les Navajos, justement, ou les tribus indiennes, on accède à la beauté, à l'être, le grand esprit pour eux, la transcendance, on accède par la danse, la répétition de la danse. Pour moi, ça fait partie. Alors, on doit pouvoir danser, y compris dans l'édifice liturgique, d'une certaine manière. La danse fait partie, l'expression du corps, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de différence, en tout cas. Le rituel, c'est important, et la danse fait partie du rituel.
En studio aussi, son corps est en train de commencer à s'animer. Franchement, Thierry Escaige, compositeur et organiste, est notre invité jusqu'à midi et demi.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Parlons un peu orgue, Thierry Escaige, si vous le voulez bien. Vous avez fait connaissance avec l'orgue à la messe du dimanche, ouais. Si j'ai bien lu, bien compris, où vos parents allaient. Ouais. Aujourd'hui, vous l'avez... Alors, je ne sais pas si vous avez tout de suite accroché avec cet instrument ou si vous avez mis un peu de temps avant de le faire vôtre. Est-ce que l'orgue quand l'orgue a vraiment commencé à vous obéir pour vous?
Oh, je crois que j'aurais pu accrocher à n'importe quel instrument. Je suis tombé sur l'orgue, de même que je suis tombé du côté profane à l'accordéon aussi, pour des raisons, je ne sais plus, parce que mes parents connaissaient ça, m'avaient offert un petit accordéon joué. Donc en fait, je me suis là aussi laissé guider par les circonstances. Et je pense qu'un musicien, quand il s'empare de quelque chose, il le transforme. Moi, j'ai comme exemple, vous savez, ces grands violonistes comme Stéphane Grappelli, qui jouait avec une technique très particulière dans l'instrument. Et mais ça marchait. Et moi, je pense qu'un musicien, c'est ça. J'ai commencé à travailler l'orgue. Et je l'ai fait. J'ai une manière de jouer l'orgue pour certains, surtout qui me regardent jouer quand j'improvise, qui est très un mélange de pianiste, un mélange de chef d'orchestre, une sorte de mélange bizarre. Mais c'est ce mélange bizarre parce que je me suis approprié l'instrument. Et puis c'est un instrument qui dit ce que j'ai envie qu'il dise, de la façon dont je veux qu'il dise. Donc s'il n'est pas assez rythmique, je vais tout faire pour qu'il soit plus rythmique. S'il n'est pas assez coloré, je vais tout faire pour que ça soit plus coloré. Je vais le transformer. Moi, j'entends intérieurement quelque chose. Il faut que l'instrument qui est sous mes mains et sous mes pieds, il dise ça.
C'est quand même un sacré instrument, l'ogre. D'ailleurs, vous vous racontez un peu en ogre, je crois, parfois. L'orgue, je vais y arriver à remettre les lettres à l'endroit. Quand vous êtes devant, vous vous sentez comment? Un peu comme un pilote dans un cockpit?
Il y a ça pour les gens. Je suis plus à l'aise devant un orgue que dans un cockpit, je vous rassure. Mais par contre, c'est ça, parce que vous avez 4, 5, quelquefois aux États-Unis 6 claviers, et puis vous choisissez les jeux, il ne faut pas se tromper, vous avez des boutons partout, c'est à voir, c'est palpitant. Une aventure.
Inauguré en décembre 2015, je crois, l'orgue de Radio France, c'est un orgue qui est encore sans passé, sans mémoire, contrairement à celui ou ceux des églises que vous pouvez parfois fréquenter. Vous lui inventez une vie, vous allez lui inventer une vie à cet orgue?
Oui, je pense que c'est un orgue qui, comme d'ailleurs celui de la philharmonie qui lui est contemporain pratiquement et qui est aussi un magnifique instrument, ça fait partie d'orgues qui vont pouvoir avoir une activité, ça qui est passionnante à la radio, c'est qu'ils vont pouvoir accompagner le chœur. Ils peuvent jouer là dans ces concerts de présence, c'est pas de l'orgue seul qu'on va entendre, c'est de l'orgue avec accordéon, et j'ai souhaité qu'il y ait ça, de l'orgue avec piano, de l'orgue avec orchestre, avec tout ce qu'on veut. C'est de l'orgue intégré aux autres instruments, c'est plus un instrument particulier. Mais cet orgue, il faut qu'il se mette à la portée des autres instruments. Et voilà, je pense que l'orgue il a encore un avenir. Hein. C'est un instrument, effectivement, qui a trouvé son ordre de gloire au 19e, 20e siècle. Mais je pense vraiment que c'est un instrument, vous le voyez dans toutes les salles au Japon, toutes les salles aux États-Unis, ont des orgues en salle, hein, autant que dans les églises. Donc c'est un orgue. Et on en construit en Chine, où je vais prochainement. On en construit vraiment partout dans le monde. Donc c'est un instrument qui est encore bien vivant.
Et alors, à l'orgue de Radio France, ou à celui de la Philharmonie qui a été inauguré en 2016, vous leur racontez les mêmes histoires à ces jeunes orgues qu'à des vieux orgues.
Oui, oui, sincèrement. Déjà, chaque orgue, on parle de ces deux-là, ils ont leurs couleurs différentes. L'orgue de la Philharmonie, un orgue plus orchestral, peut-être plus sombre, doux. Celui-là est un instrument qui a des couleurs, on va dire, plus aiguës, plus... Enfin, chacun plus classique, chacun a sa couleur. Mais sincèrement, quand vous allez dans une église à Strasbourg ou à Leipzig ou autre, que vous avez un orgue qui était l'orgue de l'époque de Bach, eh ben... c'est vrai qu'il vous raconte quand même quelque chose, et donc effectivement vous vous rendez hommage en l'utilisant tel qu'il a été à l'époque de Bach, mais vous essayez aussi de le ramener vers l'orgue contemporain quand vous jouez.
Vous êtes aussi un pro aujourd'hui de la musique contemporaine, Thierry Esquèche, dissonante, conceptuelle, élitiste. On lui reproche souvent beaucoup de choses, mais vous vous appliquez à la rendre accessible. Et puis l'une de vos autres particularités, c'est de savoir renouveler les genres, comme celui du trompette et orgue que vous avez entrepris de refusionner avec Éric Aubier, dont l'arrangement de la danse russe de Tchaïkovski, extrait de son Casse-noisette, ou encore le thème central du Lac des Cygnes. Et puis vous avez œuvré pour le rapprochement, improbable, pourrait-on penser, de l'orgue avec l'accordéon. Et le grand Richard Galliano. Vous êtes l'un et l'autre réunis dans l'album Aria, sorti à l'automne dernier, extrait de Gisèle. Votre vie, il y a eu l'accordéon puis l'orgue, et peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas ici, les deux réunis. Durant ces concerts à Radio France, dans le cadre du festival Présence qui s'ouvre ce soir, vous retrouverez aussi vos élèves, dont Thomas Hospital, présent pour sa deuxième saison en tant qu'organiste en résidence à l'orgue de Radio France, avec un disque Convergence qui sortira le 9 février. En un mot, pour terminer, Thierry Esquèche, à moins que la relation de maître à élève soit en sens unique, mais j'y crois pas avec vous, il est votre élève, qu'est-ce qu'il vous a apporté, lui et les autres ?
Bah, il m'a apporté une telle vivacité, notamment dans le cas de Thomas, mais dans beaucoup d'autres aussi, une telle vivacité qu'il vous... et puis un esprit vraiment, un tel appétit de découvrir et de faire sortir aussi l'orgue de ses sentiers battus, qui vous oblige, vous, à vous renouveler complètement à chaque cours, sinon vous devenez un vieux crouton professeur. Donc je veux dire, pour que le cours en passe, il faut cette énergie, mais elle est aller-retour.
Thierry Esquèche, tête d'affiche du festival Présence de Radio France. Il débute aujourd'hui. Il se refermera le 11 février. Merci beaucoup à vous. Merci.